There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quel est le point commun entre Cathy Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par les hommes? L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières. C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers des témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Salut toi, c'est Alix et je viens te présenter le 8e épisode de Conquérante qui sonne la reprise du podcast. Accroche-toi bien, car c'est Major Kusanakil qui ouvre le bal de la rentrée et qui te parle de son sport, le roller derby. En quelques années seulement, Major est passé de non-sportive à vice-championne de France et 24e mondiale de roller derby avec son équipe. En pratiquant ce sport à la devise « Do it yourself », elle a fait des rencontres incroyables et est devenue head coach des Paris Roller Girls. Elle te raconte avec passion sa découverte et sa pratique de ce sport féministe et généreux. Et tu verras, elle va te donner envie de te lancer sur des patins et de bouffer le monde.
Alors mon vrai nom c'est Anaïs Di Lucio, j'ai 33 ans et mon nom de roller derby c'est Major Kusanakil. C'est plutôt comme ça qu'on m'appelle dans la vie presque tous les jours.
Et du coup, ce nom, tu l'as choisi, c'est ça?
C'est ouais, propre c'est un derby. Nom que j'ai choisi. C'était un jeu de mots par rapport à une héroïne de fantasy. Ça vient de Ghost in the Shell, en fait. Et en gros, c'était important pour moi de trouver une identité un peu empowering, quoi, un truc de femme qui déchire. Et donc j'ai pris ça et puis je l'ai remis à ma sauce, quoi.
Et du coup, comment ça se passe pour se choisir un nom au derby?
Alors, il y a deux options. Soit on fait assez vite et on se trouve son nom et on arrive à l'imposer et on a notre nom. La deuxième option, c'est il y a quelqu'un qui vous file un surnom un peu pourri dès le début, du genre la meuf qui tombe, croque en jambe ou je sais pas quoi. Et puis on le garde parce qu'on n'a pas le choix. Tout le monde nous appelle comme ça. Donc voilà, donc c'est pour ça, pour les débutantes, en général, je leur dis, dépêchez-vous, trouvez votre nom avant qu'il y ait un truc qui vous colle dessus.
C'est génial. Et du coup, est-ce que tu peux présenter un petit peu le derby qui est pas forcément familier à tout le monde? Enfin, moi, je connaissais pas trop.
Alors, c'est un sport de contact en équipe qui se fait sur une piste plate. C'est une espèce de grand ovale qui fait 25 mètres de long, un truc comme ça. En gros, il y a deux équipes qui jouent en même temps dessus. On va avoir 5 personnes de chaque équipe sur la piste qui vont se courir après. Et il y a une joueuse de chaque équipe qui s'appelle la jammeuse, qui a une étoile sur le casque. Et c'est elle qui va marquer les points. Et elle marque un point par adversaire dépassé. Donc ça, c'est le gros du sport. Et sachant que du coup, on va essayer de l'empêcher de passer, l'adversaire, et en même temps, on va essayer d'aider la nôtre à passer. Ça veut dire qu'il y a du contact, donc il y a plein de choses qui ne sont pas autorisées. Il y a beaucoup de règles au roller derby, mais en gros, avec les épaules, les hanches, le torse, on se donne des coups pour éviter que ça passe, quoi.
Et effectivement, c'est un sacré sport de contact parce que tu es arrivée du coup à la rédac aujourd'hui, la jambe dans une attelle. Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Alors en fait, je me suis fait les croisés. Ça, c'est un truc qui arrive vachement apparemment au foot, rugby, etc. Et puis ça m'est arrivé, c'est un truc trop nul, un truc amical. Enfin, c'était vraiment tout pourri. Mais voilà, mais ça fait partie parce que c'est un sport de contact et du coup, ça arrive. La blessure, ça fait partie du sport. Hein. Vraiment, les chevilles, les genoux, ça arrive aussi les traumas crâniens parfois. On aimerait que ça arrive moins, mais ça arrive. Il y a un protège-dents en derby parce que voilà, ça. Les contacts sont forts, peuvent être très forts.
Ok. Et du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de toi et de comment, enfin, c'est quoi tes premiers souvenirs de sport, comment t'étais quand t'étais petite sportive?
J'étais pas sportive du tout. Pas du tout, du tout. En fait, quand j'étais petite et quand adolescente, enfin toute ma scolarité, en gros, étant très asthmatique, j'ai été à peu près interdite de n'importe quel sport. J'avais droit qu'au sport d'intérieur et il y avait quasiment pas de sport d'intérieur dans mes écoles. Donc du coup, j'ai rien fait jusqu'à 18 ans à peu près. Je m'étais même pas dans la cour de récré. Donc vraiment gros flambi. Et puis en fait, vers 20 ans. Je me suis trouvé mon premier sport qui a été un art martial, c'est le kendo, c'est l'escrime japonaise. Et je suis tombée dedans et j'ai adoré et j'ai été super passionnée très rapidement. Et je m'étais dit, ça tombe bien parce qu'un sport individuel, c'est fait pour moi. Moi, je suis pas du tout sport collectif, j'y connais rien, j'ai pas fait ça quand j'étais petite, donc en plus j'étais pas sportive, donc ça semblait logique, quoi, un truc plus qui parlait de pensée, où il y avait beaucoup de réflexion, où le geste était important, etc. Et j'ai fait ça pendant presque 8 ans quand même. Et en fait, c'est au cours d'un séjour aux US que je suis tombée sur le roller derby. Et en fait, ça a été la révélation complète du sport où c'était les femmes qui fixaient les règles, où c'était des féministes, où le mot féministe, c'est pas un gros mot, ce qui est complètement démentiel pour moi, parce que tout le reste du sport que j'avais fait, j'étais la féministe de service. Et quand on disait féministe de service, c'est la relou, quoi, en fait. Et là, se retrouver dans un sport où c'est ça qui dicte les règles, c'était complètement dément pour moi. Donc, je suis allée faire j'ai acheté le matos direct, complet, et je suis allée faire un entraînement avec, à l'époque, c'était avec les Gueuses de Pigalle, à Paris, et en fait, je suis tombée dedans, j'ai découvert qu'en fait, les sports de groupe, collectif, en fait, c'était génial, j'avais pas du tout compris ce que ça pouvait être, mais que c'était absolument génial, et c'est devenu presque mon quotidien, quoi, très 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 vite, je me suis rentrée dedans jusqu'au bout, quoi, ça a été la folie.
Et du coup, quand tu dis que c'est les filles qui dictent les règles dans ce sport, c'est un sport exclusivement féminin. Alors, qui a été créé par les femmes.
Ouais, c'est un sport féminin. Ça a été créé par des femmes. Ça a été créé par des féministes troisième vague aux États-Unis, la mouvance Riot Girls, etc. Des punks en roulette qui avaient envie de reprendre ce sport qui était à la base un espèce de catch sur roulette. Donc elles ont repris ça à leur sauce. Un truc un peu fou où elle venait en barésie et en chaussettes colorées se marrer et rouler et puis s'en prendre plein la gueule aussi et c'est reparti comme ça et puis ça s'est remis, ça a été très très vite il y a des instances qui se sont créées, une espèce d'association qui s'appelle la WAFTA, Women's Flat Track Derby Association, qui est l'association qui est américaine mais internationale de roller derby, et elles ont décidé on va pas se faire prendre les clés de notre sport comme ça arrive tout le temps, on va garder les clés de notre sport, donc on va créer les règles nous-mêmes, on va les copyrighter. Donc les règles du roller derby sur piste plate, elles sont copyrightées par ces femmes. Et puis ça va être nous-mêmes qui allons décider de ce que c'est les règles. Du coup, cette énorme association, elle a vraiment grossi énormément très très vite. Mon club à Paris fait partie de cette association. Il y a plein d'associations dans le monde entier qui font partie de la WAFTA. Et c'est toutes les membres de toutes les équipes mondiales qui décident des règles par vote au fur et à mesure, qui décident de comment ça va se passer, qui va être dedans, qui va pas être dedans, etc. Et c'est femmes plus, donc femmes plus gender fluid, femmes trans évidemment, purement sur l'autodétermination. Donc pour un règlement sportif, c'est un peu compliqué parce que les autres sports comprennent pas trop quand on leur dit non, mais nous on fait pas de tests d'hormones, etc. parce qu'il y a ça dans les autres sports. Nous c'est l'autodétermination qui prime et point barre. Donc ça s'est créé, construit comme ça. Et il y a quand même aussi des hommes, il y a à peu près 20% de mecs, donc il y a une asso séparée qui s'appelle les Merdillers, exprès pour eux. Ils sont pas très nombreux, et globalement, dans l'ensemble, ils comprennent quand même le principe de laisser le spotlight aux femmes, pour une fois, parce que le problème, c'est que c'est automatique, dès qu'ils rentrent dans un truc, ils se retrouvent président, chef, ils se retrouvent à voir les articles, etc. On est tout le temps obligé de faire le boulot, en fait, parce que sinon, c'est eux qui se retrouvent dans les médias, alors qu'ils sont vraiment une toute petite minorité. Et la plupart d'entre eux, ils le comprennent, donc ils essayent de faire le boulot quand il y a un média qui va venir les voir en disant bon bah allez, on fait un article sur vous. Ils vont d'abord dire bah non, allez faire un article sur nos potes parce que c'est elle ce sport-là. Donc ça, c'est un peu exceptionnel. C'est un peu exceptionnel, ouais, pour notre sport.
Et du coup, tu me disais aussi que tu as eu des responsabilités assez vite que tu n'aurais pas forcément eu dans un autre sport qui sont réservés plutôt aux hommes.
Ouais, en fait, je suis devenue coach et head coach, donc chef coach en gros d'une équipe complète. Parce qu'il y a des... Alors en l'occurrence, c'était des mecs d'ailleurs qui m'ont tout de suite dit « Non, non, mais vas-y, nous, on te fait confiance, c'est parti, quoi. Tu sais ce que tu fais, donc vas-y. » J'étais très débutante dans le sport, mais par contre, j'avais appris un peu de pédagogie, donc je savais comment on fabriquait un entraînement. C'est des trucs que j'avais pris dans les arts martiaux avant. Donc j'appliquais ça un peu dans ce que j'avais appris sur le tas. Et puis le mot magique dans le roller derby, c'est « do it yourself ». Donc tout est fabriqué par nous-mêmes, vu que les règles on les fabrique nous-mêmes, la pédagogie on la fabrique nous-mêmes, il n'y a pas d'espèce de truc du haut vers le bas où on te dit bah maintenant c'est comme ça le sport, c'est le sport qui se construit de lui-même. Donc du coup bah je me suis retrouvée voilà head coach d'une équipe, après je me suis retrouvée head coach d'une plus grosse équipe derrière, là actuellement maintenant je suis head coach de celle où je suis, qui est une équipe compétitive, qui est deuxième française et qui est 24e mondiale à peu près. Et du coup voilà, ça c'est des postes auxquels on a du mal à accéder d'habitude, où on est en concurrence souvent d'ailleurs avec des hommes. C'est hyper compliqué, quoi. Et là, ben, on te fait confiance, les gens ils prennent des initiatives. Parce que c'est comme ça que le sport fonctionne. Les gens sont pas là pour te dire non. Si t'as envie de faire un truc, tu le fais. Et du coup, bah, tu te retrouves, voilà, dans des postes, entre guillemets, de leadership, qui te permettent de façonner vraiment le sport au quotidien. Et ça, c'est vraiment démentiel. C'est un gros boulot, hein, d'être head coach. Vraiment, ça prend énormément de temps. Alors, on est une centaine, hein, dans mon équipe. Donc, ça fait un gros pool de joueuses. Ça fait beaucoup d'entraînement à gérer. Faire en sorte que toutes les équipes progressent, etc. C'est un gros boulot, mais c'est un truc que j'aurais jamais fait autrement, quoi. Enfin, ça m'est un peu tombé dessus. En même temps, c'est vraiment génial.
Cet aspect militant, comment ça se traduit ? Comment ça se traduit exactement, ouais, dans le sport ?
Alors, déjà les règles, le code de conduite, etc. Il inclut énormément de choses qui sont pas forcément incluses dans d'autres sports, notamment sur le langage qui est employé. Ça, c'est des choses qui sont reprises très régulièrement sur le côté faire des blagues, mais c'est pas grave parce qu'on est entre nous, etc. Donc ça, c'est pas possible. Quand on est en championnat, quand on est en match, on a des recours qui sont utilisés. C'est pas juste sur le papier de dire ah regardez sur le papier si quelqu'un fait un acte déplacé, ben dans l'absolu il peut plus continuer. Non, c'est utilisé et on a des exemples tout le temps de gens il est pas safe, il fait des blagues qui sont pas safe, et ben ça suffit, il sera plus dans le milieu tant qu'il aura pas compris que ben faut qu'il fasse attention à son langage. Et ça monte jusqu'au plus haut niveau de compétition. Donc ça c'est des petites choses, ça peut sembler des petites choses, mais sauf que c'est constant surtout. Et du coup, ça crée petit à petit un climat en fait safe, en fait beaucoup plus agréable pour les gens parce que tu sais que t'as pas juste à prendre les petites micro-agressions qui vont arriver tous les jours et te dire bon bah c'est comme ça les micro-agressions quand t'es noir, quand t'es d'une minorité de genre, voilà, etc. Tu sais que ça va être pris en compte et tu sais que si tu t'en parles, quelque chose sera fait derrière. Donc il y a des choses, des petites choses aussi, comme par exemple le pronom. Maintenant, officiellement, il peut être, on peut l'indiquer sur les maillots d'arbitrage, par exemple. En début de match, on va aller, on a une petite feuille et puis on va dire, déjà, on va dire, bon, on va parler des handicaps de chacun, etc. Comme ça, chacun est pris en compte correctement. Et puis, ben, on va dire, machin, son pronom, c'est ça.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
bidule sans prononcer ça. Donc merci de t'adresser à cette personne avec ce pronom-là et pas avec un autre. Et s'il y a des erreurs, et ben les erreurs, elles seront la personne va s'excuser, etc., etc. On va pas juste faire comme si, ben c'est pas grave, on passe à la suite. Le militantisme, il est pas juste, c'est pas juste des belles paroles, quoi. Ça s'applique, et ça s'applique jusqu'à la compétition. Quand tu lis le code de conduite, le règlement, etc., ben ça va te former un minimum sur les termes, sur qu'est-ce que c'est une personne transgenre, comment tu t'adresses à quelqu'un qui est sourde, par exemple, ou qui a un problème d'audition. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu mises de côté d'habitude dans le sport, à part le jour de l'année où on parle du sport des personnes non valides. Enfin, et voilà, là, nous, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de comment le sport évolue et comment il est façonné.
Donc tu m'as parlé un peu de tes premiers pas de sportive. Est-ce que tu as eu un moment en commençant du coup assez tard le sport, est-ce que tu as eu peur de l'échec à certains moments?
Ouais. Bah surtout alors le roller derby en plus j'étais nulle en patin. Je savais pas du tout patiner, j'ai acheté des patins, c'est des patins à l'ancienne donc ça s'appelle des quads. Pas en ligne. Donc j'ai acheté le matos et je me suis dit moi je vais sortir avec quoi. Et puis je me suis rendu compte que je savais rien faire du tout, je savais pas, je pouvais pas faire 3 mètres sans mes patins. Et quand on voit d'autres gens à côté, surtout beaucoup de mecs en fait gérer vraiment parce que ça fait depuis 6 ans qu'ils sont sur des patins et qu'ils ont été au bowl et que voilà, c'est hyper intimidant. Sauf que l'ambiance du roller derby, c'est ça, c'est beaucoup de femmes comme moi en fait, beaucoup de femmes qui ont pas fait de sport, beaucoup de femmes qui ont arrêté parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus de femmes qui arrêtent à l'adolescence le sport que d'hommes. Et ben en fait du coup c'est un milieu qui est hyper à l'aise avec ça, le fait que tous les corps soient bienvenus, qu'on ait besoin aussi de toutes les silhouettes, de toutes les façons de jouer, parce qu'on a besoin de meufs hyper minces et agiles, on a besoin de meufs hyper fat qui tiennent sur la ligne, on a besoin de tout ça. Donc du coup on est très confortable avec ça. Donc le fait que t'aies aucune notion, que tu sois nulle complètement, que tu arrives à peine à avancer 2 pieds, bah c'est pas grave. Tout le monde te regarde et te dit ben la prochaine fois tu seras meilleure et la prochaine tu vas être encore meilleure. Tu vois des filles qui font des trucs démentiels sur leurs patins et qui disent ben j'ai commencé comme toi. Et ça c'est c'est fou quoi, parce que c'est pas juste des paroles, tu les vois, hein. Tu les vois dans les championnats internationaux, ils sont sur YouTube. Tu vois ces meufs là qui font des saltos, des machins et des bidules et qui te disent ben quand j'ai démarré, j'avais pas fait de sport depuis 20 ans et je savais pas faire de patins quoi. Et du coup ben ça te met dans une ambiance quand même qui t'aide à te challenger toi-même. En fait, c'est toi qui te mets le challenge au lieu que ce soit automatiquement l'entourage, la société, etc. Ce qui parfois peut être dur, par exemple, en allant dans un skatepark, parce que ça, c'est des trucs qu'on fait aussi, les pratiques du roller se croisent, se mélangent. En skatepark, quand c'est des gros endroits où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de mecs, où il n'y a pas forcément un slot attribué aux femmes, ça c'est super intimidant, on ne teste pas forcément l'espace, etc. Ben, là, on a notre espace à nous, il est safe, enfin, on essaye de le rendre safe, c'est forcément compliqué, mais on essaye de le rendre safe. On viendra pas te faire une remarque sur ton corps ou sur ta façon de t'entraîner ou ce que t'as envie ou pas envie de faire. Donc c'est vraiment un milieu hyper hyper ouvert et qui te donne envie.
Et tu parlais du coup de conquête de l'espace. Est-ce que aujourd'hui tu peux aller dans les skateparks et tu fais du patin en...
Alors si ça m'arrive, j'en fais pas beaucoup parce que je me suis blessée pas mal en skatepark et que comme j'ai des échéances hyper compétitives dans mon équipe de roller derby, j'ai décidé de vraiment me concentrer sur ça parce que c'est trop con de se faire un truc à la cheville 2 semaines avant un gros truc aux États-Unis.
C'est vrai.
Voilà. Mais il y a beaucoup de filles qui le font. Il y a beaucoup de filles qui le font et effectivement, bah moi ça m'a donné envie. À un moment où j'ai fait ça, j'ai pris mes patins et puis je suis allée dans des petits skateparks. Genre je partais en vacances et j'ai vérifié où était le skatepark le plus proche et ben c'est pas du tout pareil. Effectivement, il y a plein de mecs, tout le monde te regarde. Personne comprend ce que tu fais et ben tu t'en fous en fait, t'as plus du tout la même peur en fait, t'as plus la peur, tu viens, tu fais ton truc et t'en as rien à battre des gens qui te regardent bizarrement, tu te fais ton spot. Après les meufs du roller derby, elles sont aussi comme elles font beaucoup de skatepark, Il y a des espèces de groupes, il y a ce qu'on appelle les Chicks and Balls, qui, voilà, je sais pas si tu connais.
Pas du tout.
C'est un espèce de, il y a des chapters un peu partout dans le monde, et c'est des femmes en skatepark. Et parmi les fondatrices, il y a une joueuse de roller derby qui s'appelle Lady Trample, qui est excellente en roller derby et excellente en skatepark. Et elles font des espèces de chapitres un peu partout dans les grandes villes, puis dans les petites villes aussi, uniquement féminin, alors toujours ces femmes plus, hein, évidemment, et pour s'approprier l'espace, se montrer des tricks entre meufs, passer la première barre parce qu'il y a des barres psychologiques, parce qu'on n'est pas dedans depuis qu'on a 6 ans, et que quand tu démarres à 30 ans du skatepark, c'est pas pareil que quand tu démarres à 6 ans. T'as forcément des craintes qui sont plus fortes, quoi. Et ben, elles sont là pour tenir la main, elles sont là pour te faire faire ton premier saut, elles sont là pour te faire faire ta première descente dans un bowl. Et une fois que t'as démarré là-dessus, et ben, voilà, t'as ton petit groupe et puis tu t'apprends au fur et à mesure, et ça, c'est vraiment génial.
Et c'est quoi, excuse-moi, un bowl? Tu en as parlé tout à l'heure.
Ouais,
pour
un
les
bowl, c'est les espèces de, dans les skateparks, il y a des parties qui sont, comme des piscines.
Ouais, d'accord, ok, voilà. Je vois.
Donc là-dedans, c'est hyper intéressant en quad de se balader là-dedans, parce qu'on peut garder la vitesse, se balader dans le bowl, monter, descendre, utiliser les barres sur les côtés pour faire des figures. Il y a des filles qui ont ramené de la gymnastique là-dedans aussi, parce qu'il y en a qui ont dépassé de gymnastes. Il y a une qui est hyper connue, qui s'appelle Estrogen, qui fait pas mal de trucs. Là, elle vient de faire stunt pour le prochain film Harley Quinn là, qui sort.
D'accord.
Donc elle était à moitié gymnaste, donc elle fait des saltos arrière dans le bowl, aller en patin, et puis elle te fait un salto arrière. Enfin, c'est complètement démentiel ce qu'elle fait. Et puis il y a une façon de s'approprier l'espace et le patinage qui est différente, parce que ça, la gymnastique, ben voilà, c'est un truc que ça se faisait pas trop. Nous, on utilise des gros freins en roller derby, ben ça s'utilisait pas trop non plus en skatepark, c'était un peu mal vu. Ben elles s'en servent et elles font des nouvelles figures avec. Et enfin voilà, il y a plus cette espèce de bashing, parce que tu fais un truc de fille, et ben elle fait un truc de fille et c'est trop classe.
Trop stylé. Et du coup, tu parlais beaucoup de compétition, donc t'es dans une équipe compétitive que t'entraînes, et j'imagine que tu fais aussi de la compétition.
Ouais.
Et c'est quoi ton rapport à la compétition? Comment t'en fais? Tu vas aux États-Unis, du coup?
Ouais, ouais. Alors, c'est particulier l'équipe où je suis, parce que du coup, on est dans la WEFTA, donc cette grosse association américaine, et les championnats, ils se déroulent la plupart du temps aux États-Unis. Par ailleurs, la majeure partie des équipes sont quand même aux États-Unis pour l'instant. Il y a une centaine, en gros, d'équipes, de clubs en France, qui sont pas tous WEFTA. Du coup, ben, quand tu veux arriver à un haut niveau de compétition, ben, t'es obligé d'aller aux États-Unis à un moment ou à un autre. Donc, nous, en l'occurrence, c'est, 2 fois par an, presque. Et du coup, ouais, moi, alors, la compétition, c'est un truc que je savais pas, mais que j'ai dans le sang, en fait. Je m'en suis rendu compte en le faisant, que j'adorais ça, et que j'adorais aller au plus haut niveau, et que j'adorais me challenger moi-même. Enfin, le principe, c'est vraiment personnel, mais j'aime pas gagner ou perdre, en fait. Je m'en fous. J'aime faire le mieux que je peux. Et pour faire le mieux que tu peux, ben, faut s'entraîner beaucoup, beaucoup avec tes potes tout le temps. Faut tout le temps les voir, et parce que comme c'est un sport collectif, plus c'est presque de la télépathie. Au bout d'un moment, on communique beaucoup sur la piste. Hein, ça fait partie du truc. On est en permanence en train de parler, de se dire quelle stratégie on va utiliser, comment on va se mettre sur la piste. Sur le track, je sais pas, par exemple, on a des formations, donc les gens, ils sont sur une partie, il y en a qui vont être en défense, d'autres en offense, en attaque, donc je sais pas, je vais dire, allez, on se met en 2-2, et là, les filles, elles vont se mettre en 2-2, et ça fonctionne que parce qu'on s'est entraîné beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble, et il y a une espèce de magie, en fait, quand t'arrives sur un match, et que tout ça se fait comme t'avais fait en entraînement, que ça a réussi, et que on se regarde à peine, et qu'on sait qu'on va le faire. Des fois, on se dit un petit truc, et puis paf, ça démarre quelque chose derrière, et on arrive à faire une action collective qui est démentielle. Et ça, t'y arrives que quand t'arrives au niveau de compétition, parce que tu t'es entraîné tellement fort et tellement souvent que ça, ce genre de truc peut se déclencher. Et ça, c'est vraiment ça mon plaisir, en fait. C'est pas vraiment gagner ou perdre, c'est vraiment d'aller au plus haut niveau parce qu'on s'est entraîné beaucoup et qu'on est ensemble. Après, c'est un sport qui a tous les pathways, comme on dit, tous les chemins possibles. Tu peux faire du sport loisir, et la plupart des gens d'ailleurs font comme ça, le roller derby. Il y a un aspect très militant aussi au roller derby, très mélangé avec le milieu LGBT. Donc du coup, enfin, ça a pas besoin d'être un truc compétitif, en fait. T'es pas obligé de faire du roller derby en te disant je vais venir tous les jours et puis je vais être super forte et ça va être dément, on va aller aux États-Unis. Ça peut être très bien, bah je vais juste voir mes potes une ou deux fois fois par semaine et on va trop s'éclater et ça va être le moment où on est bien, où je pense pas à mon boulot, où on bosse ou je sais pas quoi. C'est tout aussi valide que de vouloir faire de la compétition à haut niveau. Et ça, ça ramène autant de plaisir. Enfin, j'imagine que moi, ce que je fais en allant aux États-Unis ouais. tous les ans.
Et du coup, ton équipe est vice-championne de France, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Alors, on se fait battre régulièrement maintenant par Toulouse. Donc, le principe, ce serait que cette année, on les batte. C'est de plus en plus serré. L'année dernière, c'était, je sais plus, il y avait quelques points d'écart. Donc, vraiment, on est très, très proches. C'est nos amis ennemis, quoi, en gros. Ouais, donc, c'est au championnat de France. Élite, donc le plus haut niveau. Chez Pergé, en fait, on a trois équipes. Donc ça, c'est mon équipe Pergé, Paris Roller Girls. On a trois équipes et les trois équipes sont en championnat, chacune dans un niveau de championnat. Et au plus haut niveau, donc l'équipe A, celle où je joue, on affronte Toulouse pour la finale chaque année, quoi, en gros. Donc voilà. Donc ça, c'est sur le territoire français. Et après, au niveau international, pour maintenir notre niveau et maintenir notre place mondiale, en fait, on fait des matchs à l'étranger régulièrement. Donc ça va être, je sais pas, à Berlin, ça va être à Londres, ça va être en Scandinavie beaucoup parce qu'elles s'y sont mis très tôt. Helsinki, Malmö sont très très bonnes. On a plein de potes à Malmö d'ailleurs qui sont allés s'installer là-bas. Donc c'est vraiment hyper international.
Ok, et donc ça reste une compétition qui est quand même, comme c'est un sport, j'ai l'impression, assez de sororité, et ça reste une compétition qui est bienveillante, même si sur le terrain, vous
Ah ouais, c'est hyper important. En fait, ça c'est un truc que j'ai découvert aussi dans le roller derby, parce que je connaissais pas du tout, mais le principe initial, c'est quand tu te déplaces dans un club pour faire un match, c'est le club qui t'accueille. Donc ça veut dire que elles vont venir te chercher au train ou à l'aéroport. Elles te t'hébergent, elles te font la bouffe. Du coup, tu passes le week-end avec elles. La plupart, elles vont aussi te proposer d'aller leur faire visiter, te faire visiter la ville où elles habitent. J'ai jamais été aussi bien accueillie de ma vie que dans le roller derby. Où que t'ailles, même si c'est pas pour un match, on a des espèces de groupes pour ça. Tu dis ok, je fais du roller derby, je vais dans telle ville. Est-ce que quelqu'un peut m'héberger? Obligé, t'as quelqu'un du roller derby qui va t'héberger. Et du coup, ça crée des liens en fait d'amitié qui sont hyper forts. Ces filles-là, les Toulousaines, on les adore. Bon, c'est nos copines. Enfin, donc du coup, la fin de match, il y a un câlin qui est obligatoire quasiment.
D'accord.
On finit toujours par un gros câlin collectif.
Avec l'autre équipe.
Ouais, on se serre dans les bras. La plupart du temps, ça arrive parce que c'est la compète et que des fois, c'est
bien sûr.
Match, il a été très dur et voilà. Mais globalement, la plupart du temps, en fin de match, c'est gros câlin et on est super contente et on se serre dans les mains. Il y a des petits gifs qui traînent sur Internet où on voit deux joueuses qui viennent de se défoncer sur la piste, une qui vient de faire un gros taquet de l'épaule, l'autre elle vole en arrière, elle se relève toutes les deux, c'est la fin du jam et elles se mettent un gros high five parce que c'était génial comme action quoi. Et ça arrive tout le temps en fait qu'on se relève l'une l'autre parce que on a fait tomber quelqu'un, c'était pas très propre et on vient tout de suite s'excuser et puis l'aider. Enfin voilà, c'est un truc qui est hyper important et on essaie de le garder parce que c'est difficile en fait. Plus il y a de compétition et plus t'as des vieux trucs un peu virilistes, un peu macho, de faut montrer que t'es forte, que t'as pas mal, etc. Et ça, on essaye de s'en débarrasser, d'aller haut dans la compétition sans retrouver ces trucs un peu nazes de la compétition traditionnelle, quoi.
Ouais. C'est fou en tout cas, c'est hyper intéressant comme sport. Et du coup, est-ce que tu as une rencontre magnifique que tu as faite grâce à ce sport dont tu pourrais me parler?
Une rencontre magnifique que j'ai faite grâce à ce sport. J'en ai fait 10 milliards en fait. Il y a le truc classique de voir son idole, ça m'est arrivé plein de fois parce que j'ai changé d'équipe. Au début, j'étais dans une équipe loisir justement à Paris. Et puis au bout d'un an, en fait, je me suis rendu compte que, j'avais envie de plus, quoi. Et j'ai changé d'équipe pour une équipe plus compétitive. Et juste la première fois que je me suis retrouvée à partager l'entraînement avec mes idoles parce que je les avais vues jouer les meilleurs matchs français. J'avais des petites paillettes dans les yeux, je savais pas ce que je faisais là. C'était complètement dément. Et ça m'arrive tout le temps parce que vu que les idoles, elles sont hyper à portée, quoi. En fait, on les voit régulièrement. Elles viennent faire des bootcamps, elles viennent nous coacher, etc. Tu les croises. Et c'est complètement dément de les voir en vrai et puis de voir qu'elles sont comme toi et d'entendre leurs histoires et que leurs histoires elles sont comme les tiennes. Après, les rencontres que j'ai faites, c'est aussi celles de, bah, je sais pas, je me suis fait héberger à Bordeaux. Les meufs, le matin, le midi, elles m'ont ramené du truc confit, du canard confit du coin. À l'époque, j'étais pas végétarienne. et c'était démentiel. Et genre, on a passé le week-end ensemble. Et j'ai adoré. Et genre, à chaque fois que je la revois, je suis trop contente de les revoir. Et ça, c'est tout aussi important que d'avoir vu sa star, quoi. Enfin, c'est vraiment des... C'est un sport de rencontre, le roller derby. C'est vraiment un sport où on passe son temps à découvrir des gens, à rencontrer des gens qui sont qui ont des vies démentes, qui sont des héroïnes vraiment du quotidien, quoi. Des femmes militantes, des femmes trans, des femmes autistes, parce qu'il y en a un paquet dans le roller derby et que comme c'est plus un peu plus safe qu'à d'autres endroits, et ben on en parle un peu plus. Enfin, et ça, c'est, enfin, voilà, c'est spécifique au roller derby que les gens puissent un peu s'autoriser à être tels qu'ils sont visiblement, parce que t'as moins la peur que quelqu'un va te juger, quoi, parce que c'est plus un peu plus safe qu'ailleurs.
Trop bien, ça donne trop envie d'en faire en tout cas. Est-ce que toi, en tant que coach, là, si t'aurais un conseil à donner aux meufs qui veulent se lancer, et toi, comment tu gères les filles qui arrivent les jours
Alors, moi, mon conseil, c'est vas-y. Voilà, il n'y a pas de crainte à avoir. Ça arrive tout le temps qu'on me dise le roller derby, j'ai vu, ça a l'air trop bien, et je me suis pas lancée. Et enfin, de mon côté, c'est pas compréhensible, quoi. Genre, non, enfin, vas-y, lance-toi. Et il y a des craintes du type, oui, mais parce que c'est du contact, c'est du patinage, je sais pas patiner, j'en ai jamais fait, j'ai jamais fait de sport, je suis pas très à l'aise dans mon corps. Et ben, tout ça, le premier entraînement, tu vas te rendre compte que c'est à la poubelle et que tu vas juste kiffer ta race, en fait. Moi, mon premier entraînement, je l'ai passé du début à la fin à morte de rire. Vraiment mort de rire du début à la fin, tellement je m'éclatais. Et en fait, toutes ces inquiétudes là elles vont voler. Il y a pas mal de villes où il y a plusieurs ligues, donc en plus tu peux vraiment aller taper la porte partout et voir à laquelle te plaît le plus en termes d'ambiance. Mais vraiment, laisse tomber ta crainte, viens, même à pied, en basket, il y a plein de rôles qui se font en basket, en fait, des rôles d'arbitrage, des rôles de bénévolat, etc., qui sont hyper importants aussi dans notre sport, qui sont accessibles aux personnes non valides, parce que ben si t'as pas deux pieds, faire du patinage, c'est pas possible. Ben, ça veut pas dire que tu peux pas être dans le roller derby, tu peux faire plein d'autres choses, notamment arbitrer, c'est hyper important. Donc, même à pied, viens voir à quoi ça ressemble le milieu, et puis enfin, tu vas forcément accrocher et adorer. Nous, avec nos débutantes, on essaye d'être un max bienveillante, parce que elles arrivent pour beaucoup avec ce genre de crainte. Et puis il y en a qui arrivent très sûres d'elles, et c'est génial. Et faut pas que du coup celles qui arrivent avec des craintes aient l'impression que c'est pas possible, parce qu'il y a des meufs qui sont hyper sûres d'elles et qu'elles ont déjà compris la vie et tout va bien. On essaye un max d'être au niveau de tout le monde et que tout le monde puisse se sentir bien, surtout pour démarrer, quoi.
Super. Bah, merci beaucoup à toi, du coup, Major. Parce que finalement, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que pratiquement personne t'appelle Anaïs.
Oui, c'est vrai. Ouais, même pas ma mère, ouais.
C'est fou.
Merci à Major Kusanakil d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi mettre un avis et 5 étoiles à Conquérante sur Apple Podcasts. Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir. J'ai trop hâte de te les présenter. D'ailleurs, si tu veux participer, n'hésite pas à envoyer un mail à jaifaisa@mademoiselle.com en mettant en objet « Je fais du sport et j'ai envie d'en parler ». Tu trouveras toutes les infos de cet épisode dans les notes du podcast. Et je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérante.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.